Mardi 5 mai 1925. Nous arrivons en vue du camp 3 vers midi.
Mon Dieu, quel endroit sinistre, dis-je alors que nous émergeons de la forêt de pinacles de glace dans l'auge sous le glacier et découvrons le site que surplombe le col nord un peu plus loin. Une pyramide de rochers a été érigée près du grand mur de glace et de neige menant au col, en hommage aux 7 porteurs morts en 1922 dans l'avalanche, et 7 bouteilles d'oxygène vide gisent à côté, rendant le panorama plus terrible encore. Comment aurais-je pu savoir que ce camp 3 deviendrait un jour un havre pour nous tous, où nous pourrions respirer un air plus riche et connaître un répit au milieu d'épouvantables souffrances? Entre-temps, il allait pourtant sérieusement éprouver mon endurance. Pour ce premier voyage entre les camps 2 et 3, Jean-Claude et moi sommes partis seuls avec nos tigres Sherpas. Mon ami s'est encordé avec Lakpa Yishei et Norbu Shedi, et moi avec Angchiri et Baburita. Nous nous arrêtons à une petite distance du camp, jonchés comme toujours de vieux piquets de tentes et de toiles déchirées, entre autres détritus couverts de neige, et regardons la paroi de plus de 300 mètres menant au col nord qui relie l'arête nord de l'Everest aux arêtes sud du Changtse. C'est sûrement le plus haut col que j'ai jamais vu. Pendant que les Sherpas épuisés s'assoient sur le sol caillouteux, J.C. sort ses jumelles pour examiner l'impressionnant mur. Je me réjouis de n'être qu'avec mon ami français et nos Sherpas. Reggie est resté au camp 2 pour superviser les chargements que la deuxième équipe de porteurs transportera jusqu'au camp 3, maintenant que J.C. a marqué le chemin sur le glacier avec des baguettes de bambou. Le diacre est redescendu au camp de base et fera des allers et retours entre les camps 1 et 2 avec la troisième équipe de tigres.
La cheminée de glace de Mallory a disparu, dit Jean-Claude en me tendant ses petites jumelles.
Il y a un an, Mallory a escaladé les 60 derniers mètres dans une cheminée de glace jusqu'au col nord, et c'est dans cette faille qu'il a installé l'ingénieuse échelle de cordes et de bois de Sandy à Erwin, celle que Bruno Siegel a nié avoir utilisée avec ses comparses, même s'il mentait manifestement. Celle dont Reggie a admis s'être servi, malgré son aspect usé, pour grimper avec Passang au mois d'août précédent. Cette échelle a permis aux dizaines de porteurs de l'immense expédition de l'année dernière de monter au col nord sans qu'il soit besoin de tailler des marches à leur intention. À présent, échelle et cheminée de glace ont disparu, avalées dans les plis d'une paroi soumise à des mouvements permanents. Les 60 derniers mètres jusqu'à la corniche, où les deux précédentes expéditions ont installé leurs tentes, sont redevenus un solide mur de glace lisse à un angle de 90 degrés. Mais les 250 mètres de neige et de glace en dessous ne sont pas plus engageants.
« La neige a l'air profonde pour arriver jusque là-bas, »
dis-je entre deux halètements. Nous avons monté cette dernière et difficile portion du trajet entre les camps 2 et 3 sans oxygène. Si le diacre s'en tient à son plan, nous ne devrions désormais plus escalader sans aide respiratoire. Et je comprends que nos Sherpas se soient pratiquement laissés tomber par terre quand nous nous sommes arrêtés, s'adossant à des blocs rocheux sans prendre la peine de retirer les 15 kilos qu'ils ont sur le dos. J.C. ôte ses lunettes crook et plisse les yeux en regardant le mur.
« Attention, je n'ai pas envie de me retrouver avec un aveugle, » lui dis-je.
Il secoue la tête et continue d'étudier la paroi de 300 mètres, la main en visière devant ses yeux.
« Il y a davantage de neige fraîche que sur le glacier, »
finit-il par dire en remettant ses lunettes.
« Les conditions sont probablement aussi mauvaises que... »
Il s'interrompt, mais je le connais maintenant assez bien pour compléter sa phrase. « Les conditions sont probablement aussi mauvaises qu'en 1922, quand 7 Sherpas sont morts dans l'avalanche. » Il faudra attendre l'arrivée du diacre au camp 3 pour en avoir la confirmation, mais je crains le pire.
Allons remettre nos amis sur pied avant de nous écrouler à côté d'eux et de plonger tous ensemble dans un dernier sommeil glacial, dit Jean-Claude.
Il se retourne et réussit à convaincre les Sherpas de se relever, bien qu'ils ploient sous leur lourd fardeau.
Plus que quelques centaines de mètres et en pente,
leur dit-il en anglais. Sachant que Norbu et mon Sherpa Babu traduiront pour les deux autres. Laissant la forêt d'immenses pinacles de glace derrière nous, Nous poursuivons notre route sur la moraine, gardant nos crampons, des 10 pointes pour les Sherpas, des 12 pointes pour JC et moi sur le sol pierreux. À environ 60 mètres du camp, je montre du doigt un espace dégagé.
Ça doit être par là que Camille Schiering a rencontré Bruno Siegel, il y a un an.
Jean-Claude se contente de hocher la tête, et je sens à quel point il est fatigué. Pour monter du camp de base au camp 1, on parcourt 5 kilomètres sur une moraine latérale, puis des champs de glace superficiels entre des centaines de hauts pénitents. Les 5 kilomètres entre les camps 1 et 2 mélangent traversées de moraines et de glaciers, la plus grande partie du trajet se faisant le long de l'Auge et entre les pinacles de glace au fond de la vallée. Pour aller du camp 2 au camp 3, il faut franchir 8 pénibles kilomètres d'une pente de plus en plus raide à mesure qu'on avance sur le glacier. Un glacier rempli de centaines de crevasses couvertes de neige fraîche. Cela fait maintenant 2 jours que je suis JC, tandis qu'il nous ouvre la trace entre ces crevasses invisibles, s'enfonçant parfois dans la neige jusqu'aux cuisses ou même jusqu'à la taille. Outre nos empreintes de pas, nous laissons des baguettes de bambou dans la neige pour baliser la piste, ainsi que des cordes fixes dans les parties les plus pentues. Ces 2 jours ont été ensoleillés. À travers mes lunettes, les champs de neige du glacier ressemblent à un labyrinthe de satsrugi et d'ombres bleues. Certains sont bel et bien des ombres. Nombre d'autres sont des crevasses sous leur fine couche de neige, où tout homme, ou toute femme, chuterait de plusieurs centaines de mètres au cœur du glacier. Jean-Claude paraît toujours savoir à quoi correspond chaque ombre. Par 2 fois, entre les camps 2 et 3, nous avons dû faire un détour pour contourner de très larges crevasses. La première fois, hier, JC a fini par trouver un pont de neige qu'il a jugé assez solide pour supporter notre poids. Il l'a traversé le premier pendant que je l'assurais, mon piolet enfoncé profondément dans la neige, puis nous avons fixé 2 solides cordes de guidage de part et d'autre à hauteur de taille, ainsi que des jumards à attacher par des mousquetons au nouveau baudrier des Sherpas. La 2e crevasse n'offrait aucun pont de neige. Et, en tentant de la contourner, nous n'avons trouvé que d'autres champs sans fin émaillés d'autres crevasses invisibles. Finalement, j'ai assuré JC, tandis que les Sherpas m'assuraient, après avoir posé un piolet supplémentaire le long du bord de la crevasse pour empêcher la corde de mordre dans la neige. Jean-Claude a utilisé ses nouveaux piolets courts et ses crampons 12 pointes pour descendre à 18 ou 20 mètres dans la terrible fissure, jusqu'à un niveau où les 2 parois se rapprochaient suffisamment pour qu'il puisse planter son marteau droit et les pointes de ses crampons droits dans le mur opposé. Ensuite, il a lancé le bras et le pied gauche par-dessus l'abîme pour les arrimer à son tour, et il a commencé à escalader la surface de glace bleue. Une fois qu'il est ressorti de l'autre côté de la crevasse, je lui ai lancé un rouleau de corde solide et 2 piolets longs qu'il a utilisés pour arrimer la corde. Et j'ai fait la même chose de mon côté, avec 2 piolets et plusieurs longues broches à glace. JC portait l'un des baudriers d'escalade qu'aucun de nous n'avait encore essayé en montagne. Il a attaché les mousquetons du baudrier à des jumards, puis il a noué les jambes au-dessus de la corde et a glissé jusqu'à nous en s'aidant de ses mains pour franchir le précipice sans fin, comme un enfant sur une aire de jeu.
Les Sherpas ne peuvent pas faire ça avec leur chargement.
Ai-je dit, le souffle court, quand il s'est détaché de la corde et éloigné du bord. Jean-Claude a secoué la tête. C'est lui qui avait fourni tous les efforts et c'est moi qui haletais.
Nos amis vont laisser leur charge ici pour l'instant. Et nous allons retourner au camp 2. À l'heure qu'il est, l'équipe de porteurs de Reggie a dû y apporter les échelles. On en attachera 2 ensemble. On posera des cordes de guidage comme on l'a fait sur le pont de neige. Et voilà.
Voilà. Ai-je répété avec moins d'enthousiasme. Nous avions parcouru les 2/3 des 8 kilomètres jusqu'au camp 3, après une longue, difficile et dangereuse marche sur le glacier, et il fallait maintenant faire demi-tour pour aller chercher d'autres cordes et des échelles au camp 2. Les Sherpas souriaient. Ils avaient suffisamment porté pour la journée et n'étaient que trop contents de laisser tomber leur barda pour redescendre sur un chemin rendu plus sûr par les baguettes de bambou. Le diacre nous avait averti que c'était de cette façon que les précédentes expéditions, dont celle de Mallory un an plus tôt, s'était retrouvé complètement désorganisé, avec des charges éparpillées tout le long des 18 km de piste dans l'Auge et sur le glacier jusqu'au camp 3 et au col Nord. Toute la planification militaire du monde, nous a-t-il affirmé, se révèle impuissante face au chaos inhérent à l'existence des crevasses et à l'épuisement des hommes.
« De toute façon, nous n'avons plus assez de baguettes », a ajouté J.C.
Il avait raison. Les crevasses étaient si nombreuses que la route qu'il avait tracée serpentait sur les 5 kilomètres que nous avions couverts. Nous avions sous-estimé le nombre de piquets nécessaires pour baliser le chemin à l'intention des porteurs suivants, surtout en cas de tempête de neige. Mais en début d'après-midi, ce mardi 5 mai, nous avons enfin atteint le camp 3 avec tout notre chargement. Franchir la crevasse sans fond sur un pont artisanal constitué de 2 échelles en bois attachées l'une à l'autre, avec 2 cordes fixées à hauteur de taille en guise de garde-corps, a été une expérience que je n'ai pas hâte de renouveler, tout en sachant que je le devrais inéluctablement et plus d'une fois. Nous avons dressé la petite tente mid pour JC et moi, ainsi que la grande tente hémisphérique de Reggie en prévision de l'arrivée des hommes et du matériel. Ce soir, les 4 Sherpas peuvent dormir dedans. Il est prévu que nous passions la nuit ici, en attendant la 2e équipe de tigres de Reggie, composée de 9 Sherpas, qui doit nous rejoindre demain avant midi. Ensuite, certains d'entre nous resteront au camp pour s'acclimater jusqu'à l'arrivée du diacre, le 7 mai, avec la 3e équipe. À ce moment-là seulement, voire après un jour supplémentaire d'acclimatation, toujours selon le plan, nous pourrons nous attaquer à la pente et au mur de 300 mètres menant au col Nord. Et cela surtout, me dis-je, parce que le diacre refuse que quiconque monte au col avant qu'il soit là et prenne la tête de l'escalade. La migraine me saisit juste avant la tombée de la nuit ce mardi. J'ai déjà souffert de maux de tête depuis que nous avons atteint le camp de base à une altitude bien inférieure, mais cette fois, j'ai la sensation qu'on m'enfonce une broche à glace dans le crâne toutes les 30 secondes. Des points noirs dansent devant mes yeux, puis ma vision se réduit à un tunnel. C'est la première fois de ma vie que j'éprouve une réelle migraine et c'est épouvantable. Sans prendre la peine d'enfiler ma veste en duvet d'oie ou ma surveste, ni même mes gants ou mes moufles, je sors de la tente à 4 pattes et m'éloigne de l'emplacement où nous avons dressé l'autre pour aller vomir derrière le rocher le plus proche. Les spasmes continuent de me secouer alors même que je me suis vidé. En quelques secondes, mes mains sont gelées. De manière vague et lointaine, je me rends compte de 3 choses. D'abord, que le vent s'est levé si fort que la petite tente mid dans laquelle JC et moi étions assis bat et s'agite comme du linge à sécher dans un ouragan. Jusque-là, j'ai cru que le bruit était seulement dans ma tête douloureuse. Ensuite, que ce vent s'accompagne de températures glaciales et d'un blizzard si intense que je ne distingue pratiquement plus la grande tente à moins de 3 mètres. Enfin, que JC a mis sa veste en duvet et, penché par l'ouverture de notre tente, me crie de revenir.
« Vous pouvez vomir à l'intérieur, Jake, pour l'amour du ciel !»
s'exclame-t-il.
« Et on jettera la bassine dehors !» Si vous restez là 1 minute de plus, vous allez souffrir de gelure pendant 1 mois.
C'est à peine si sa voix me parvient par-dessus les vents déchaînés et le battement de la toile. Si ma tête ne m'élançait pas tant et que mon estomac n'était pas occupé à se retourner, j'aurais trouvé son invitation amusante. Mais à cet instant, je suis presque trop épuisé pour me traîner jusqu'à notre tente, frappé par les rafales. Je ne vois plus la grande tente de Reggie où se serrent les Sherpas, mais j'entends sa toile lutter contre le vent. Entre les 2 tentes, on dirait 2 bataillons d'infanterie qui échangent des coups de feu. Enfin, je me retrouve à l'intérieur où JC me frictionne les mains et m'aide à rentrer dans mon sac de couchage. Mes dents claquent trop pour que je réussisse à parler, mais au bout 1 minute, ça sort.
Je meurs et on n'est même pas encore sur cette foutue montagne.
Jean-Claude se met à rire.
Je ne crois pas que vous soyez en train de mourir, mon ami. Vous avez juste pris une bonne dose de ce mal d'altitude contre lequel je lutte, moi aussi.
Je secoue la tête, j'essaie de parler, je bafouille et finis par prononcer.
Eudème,
Je ne serai pas le premier homme à mourir d'un œdème pulmonaire ou cérébral en tentant de gravir l'Everest. Je ne vois rien d'autre qui puisse causer une migraine et une nausée de cette intensité. » Aussitôt, J.C. redevient sérieux, sort sa lampe électrique de son sac à dos et la passe plusieurs fois devant mes yeux.
« Je ne crois pas, » finit-il par dire. « Je pense vraiment que c'est le mal des montagnes, Jake. En plus des terribles coups de soleil que vous avez attrapés dans l'auge et sur le glacier. Mais on va vous faire avaler de la soupe et du thé chaud et voir comment vous vous sentez. »
Le problème, c'est que nous ne parvenons pas à faire chauffer de la soupe. Le réchaud Primus, le grand modèle que nous avons apporté, permettant de cuisiner pour six, refuse de s'allumer.
« Merde !» murmure J.C. « Laissez-moi encore quelques minutes, mon ami. »
Il commence à démonter l'appareil, souffle dans de petites valves, vérifie des pièces, utilise sa torche pour inspecter l'intérieur des trois cylindres, comme mon père examinait le canon de son fusil après l'avoir nettoyé.
Les pièces sont au complet et en bon état, annonce-t-il.
Après quoi, il remonte le réchaud aussi vite qu'un marine remonterait son arme. Le foutu machin refuse toujours de s'allumer.
Mauvais combustible ?
Réussis-je à suggérer. Je me suis recroquevillé dans mon sac de couchage, de sorte que ma voix est étouffée par l'épaisseur de toile et de duvet. Le simple fait de regarder J.C. effectuer ce travail de précision à main nue dans ce froid terrible aggrave mon mal de tête. Je ne veux surtout pas être obligé de ressortir vomir, tant que je peux rester parfaitement immobile, ballotté par ces vagues de douleur et ces spasmes, tel un canot dans la tempête.
« Nous avons presque vidé nos gourdes au cours de la longue ascension depuis le camp 2, »
dit J.C.
« On peut tenir longtemps sans nourriture chaude, mais si on ne parvient pas à faire fondre de la neige pour boire de l'eau ou préparer du thé, et qu'on reste bloqué ici plusieurs jours, on aura des soucis. »
Il enfile ses vêtements d'extérieur.
« Comment ça, bloqué ici plusieurs jours ? »
dis-je par l'ouverture bordée de givre de mon sac de couchage.
« Reggie et son équipe de tigres seront là demain avant midi. Et le diacre et ses sherpas avant le soir. Demain, à 7 heures, ce camp ressemblera à la gare de Grande Centrale. Nous aurons assez de nourriture, de fuel et de réchaud pour une armée. »
À 7 secondes, une rafale sûrement supérieure à 160 km/h frappe le côté nord de la tente, se glisse sous la bâche de sol et menace de nous soulever pour nous emporter. Jean-Claude n'a que le temps de se jeter par terre, bras et jambes écartés. Après un instant incertain où nous ignorons si nous allons nous envoler ou pas, nous rebondissons une fois durement sur place, tandis que les parois de la tente se mettent à battre follement et à craquer comme une nouvelle salve de coups de feu. Je devine que plusieurs attaches pourtant solidement fixées ont cassé ou que des piquets ont été arrachés. À moins que le vent n'ait simplement balayé la demi-tonne de rochers à laquelle nous avons arrimé des cordes supplémentaires pour plus de sécurité.
« Ils n'arriveront peut-être pas demain !»
dit Jean-Claude assez fort pour être entendu par-dessus le vacarme.
« On doit vraiment trouver un moyen de faire fondre de la neige pour avoir de l'eau potable. Et allez voir comment vont les sherpas à côté !»
De l'extérieur, la grande tente hémisphérique de Reggie semble mieux résister au vent que notre modèle Whimper en A. Mais une fois à l'intérieur, nous voyons tout de suite que ses occupants ne s'en sortent pas aussi bien. Jean-Claude et moi avons apporté quelques boîtes de conserve gelées, ainsi que le Primus inutilisable, avec le vague espoir que l'un des Sherpas saura le réparer. De la neige s'engouffre avec nous à l'intérieur, et nous nous dépêchons de refermer hermétiquement l'ouverture. La seule lumière dans la tente provient d'une petite chandelle de ghee, comme en utilisent les hindous pour leurs cérémonies religieuses. Le ghee est du beurre clarifié, et son odeur nauséabonde accentue ma nausée. Les 4 Sherpas ont l'air pathétiques. Baburita, Norbushedi, Angchiri et Lakpa Yisei sont recroquevillés les uns contre les autres au centre de la tente, dans leurs vestes en duvet d'oie mouillées. 2 d'entre eux sont à demi enfoncés dans leur sac de couchage, également humides. Mais les 2 autres ne les ont même pas. Il n'y a pas d'équipement ni de nourriture dans la tente, pas même une couverture supplémentaire. Et les 4 hommes, censés figurer parmi les meilleurs tigres Sherpas, nous regardent comme des naufragés désespérés regarderaient de possibles sauveteurs.
« Où sont les 2 autres sacs de couchage ?» demande J.C.
« Lakpa a allégé son chargement au camp 2 », répond Norbushedi en claquant des dents. « Il a oublié son sac, le mien et l'étoile de sol supplémentaire. » Par erreur, Sahib.
Merde !
S'exclame J.C.
Les sacs de couchage, c'est ce qu'il y avait de plus léger dans vos paquetages. Vous avez de l'eau ?
Non, Sahib,
dit Baburita.
Nous avons tout bu pendant l'ascension. Nous espérions que vous en aviez déjà fait fondre pour nous.
JC flanque le Primus récalcitrant au milieu des Sherpas et explique le problème. Babou et Norbu traduisent pour les deux autres.
Où sont les provisions ? Demande JC. La soupe et les boîtes de conserve. On n'a pas pu atteindre les chargements, répond Norbu. Ils étaient trop enfoncés dans la neige.
Ridicule, dit JC. On les a laissés à quelques mètres d'ici il y a seulement quelques heures.
Il faut ressortir chercher la nourriture et les ballots pour voir ce qui peut nous être utile.
Est-ce qu'il y avait un deuxième Primus par hasard ?
Non,
dit Babou d'un ton sans espoir.
Mais j'ai porté beaucoup de bidons d'essence sur le glacier.
JC secoue la tête. Je ferais la même chose si je n'avais pas aussi mal. Le combustible ne nous servira à rien si le Primus ne fonctionne pas.
Mettez vos gants, vos moufles et vos survestes Shackleton,
ordonne JC.
Il neige trop et il fait trop sombre pour trier le contenu des chargements dehors. Il va donc falloir les rapporter dans la tente.
C'est vrai que la nuit tombe dehors et que le blizzard limite la visibilité à 2 mètres. Je me demande si nous ne devrions pas nous encorder quand JC nous crie de nous tenir, Babou, Ang et moi, et crie à Norbu et Lakpa de rester accrochés l'un à l'autre et à lui. En titubant, nous nous éloignons de quelques mètres de la grande tente pour nous diriger vers l'endroit où nous pensons que les Sherpas ont laissé tomber leur charge. Nos paquetages à JC et moi sont posés à l'entrée de notre tente, calés par des pierres. Ils sont vides, évidemment, puisqu'à l'exception de quelques conserves de nourriture, nous avons porté les 2 lourdes tentes avec leurs piquets et arceaux, ainsi que le Primus défectueux. Nos vies dépendent donc de ce que nous trouverons dans les chargements des Sherpas. Le camp 3 est censé être abrité, comparé au camp 4 sur le col nord, sans parler de tous les autres camps situés plus haut sur les arêtes nord et nord-est. Et le vent qui dévale les 300 mètres de pente de glace et de neige est si puissant qu'il me renverse littéralement. Baburita et Ang Chiri s'écroulent dûment dans la neige avec moi. À 4 pattes, je tâtonne autour de moi pour retrouver les paquets au milieu des congères, des rochers et de la neige qui s'accumule.
« Ici !»
C'est à peine si j'entends la voix de JC, mais les 2 Sherpas et moi rampons dans cette direction. Nous attrapons les ballots à présent recouverts de plusieurs centimètres de neige et commençons à les traîner vers la grande tente. Mais où est la grande tente ? Par chance, Lakpa Yishei a laissé brûler la petite chandelle de gui sur le sol. Idiot de l'abandonner sans surveillance puisque le feu représente toujours un danger dans ces tentes de toile. Et nous rampons, tirons, grognons et jurons tous les 6 en direction de cette lueur minuscule. À l'intérieur, c'est vite le bazar. Assez de neige est entrée pour que nos vestes et pantalons de duvet ainsi que les 2 sacs de couchage en soient couverts. Notre chaleur corporelle ne tardera pas à la faire fondre, or plus le duvet d'oie est mouillé, plus il perd ses propriétés isolantes. Une fois trempé de part en part, il fournit à peu près autant de chaleur qu'un gant de toilette froid et mouillé. Étourdi, luttant pour ne pas vomir de nouveau, je me recroqueville en frissonnant sur la partie de la bâche de sol la plus sèche que je trouve. Plus je tremble, plus j'ai mal à la tête, et la soudaine puanteur d'essence n'arrange rien. Jean-Claude passe en revue le contenu des ballots et des sacs, encore quelques conserves de nourriture gelée, plusieurs paquets de ce que la Royal Navy appelle de la soupe portable, mais pas d'eau. 5 bonbonnes supplémentaires d'essence pour réchaud. Nous en avons assez pour faire exploser un blocos allemand ou pour creuser un trou dans le mur du col nord, mais ce foutu Primus refuse de l'enflammer. JC dégage un espace au milieu de la tente et étend une de ses chemises de laine pour lui servir de zone de travail. Il a apporté sa lampe torche, dont la lumière s'ajoute à la petite lueur bleue de la minuscule chandelle de gui. Il examine encore une fois le Primus. Nous avons 2 grandes casseroles pour faire bouillir l'eau, et chacun de nous dispose d'une petite tasse en fer blanc. JC s'assure que le réservoir est bien rempli aux 2/3 d'essence, comme le préconise le mode d'emploi, verse un peu d'alcool à brûler dans la petite coupelle sous le brûleur, actionne la pompe pour augmenter la pression, et essaie encore d'allumer le réchaud. Rien. JC lâche un torrent de mots français si pittoresques que je ne comprends qu'une vulgarité sur 20. Il recommence à démonter le foutu truc en prenant garde à ne pas renverser l'essence ou l'alcool à brûler.
« Comment ça peut ne pas marcher ? »
dis-je, toujours couché en position fœtale et la tête lancinante.
« Je ne sais pas !»
répond JC entre ses dents serrées. Le vent agite si fort la toile que les quatre Sherpas attrapent les arceaux en bois du dôme pour tenter de tenir la tente avec leur poids et leur force déclinante. La température doit frôler les moins 40 degrés Celsius. Je me force pourtant à me redresser et regarde les pièces en cuivre du Primus qui scintillent faiblement dans la lumière de la torche et de la chandelle de Guy. Je me dis qu'il n'y a sans doute rien de plus simple au monde qu'un réchaud Primus de fabrication suédoise. Le diacre a principalement acheté des nouveaux modèles de 1925, et s'ils ont été améliorés pour mieux fonctionner à haute altitude, selon les recommandations d'un certain George Finch, ils diffèrent assez peu des anciens réchauds à pression utilisés depuis 1892. Nous avons cuisiné sur Primus pendant toute notre traversée du Sikkim et du Tibet. Aucun n'a jamais manqué de s'allumer. Tandis que JC lève le brûleur dans la lumière pour s'assurer une fois encore qu'il n'est pas bouché, j'inspecte les autres pièces. Il s'agit d'un modèle 210 en cuivre, avec des pieds fixes. Le procédé d'allumage est le même que pour tous les autres réchauds que j'ai utilisés au fil de mes années d'alpinisme. D'abord, on actionne la pompe intégrée dans le réservoir de combustible pour le pressuriser. L'augmentation de la pression fait passer le combustible dans le tuyau qui monte jusqu'au brûleur. Pour préchauffer ce tuyau, on embrase une petite quantité d'alcool à brûler dans la coupelle intégrée à sa base. C'est ce que nous avons fait une dizaine de fois cet après-midi et ce soir, sans succès. Une fois que le tuyau atteint une température suffisante, une pulvérisation presque invisible de gaz de paraffine chaude est émise à travers la buse centrale du brûleur. Quand l'air se mélange à ce gaz, même l'air fin de l'Everest, la petite flamme circulaire du réchaud pousse le gaz en cercle. Techniquement, ce n'est pas l'essence qui brûle dans le cercle de flamme bleue, c'est le gaz de paraffine généré par la pulvérisation d'essence. Ces brûleurs font un bruit tel que de nombreux alpinistes et campeurs ont surnommé leur Primus des beuglants. En fait, il y a peu de sons plus réconfortants pour un montagnard épuisé que le grondement d'un Primus qui fait fondre de la neige pour fournir de l'eau potable, réchauffe de la soupe ou du ragoût, ou ajoute seulement un peu de chaleur dans une tente plantée dans la neige à haute altitude. Mais là, rien.
On peut préparer du thé et peut-être même un peu de soupe sur un petit réchaud à alcool, dis-je. Réchauffer quelques sardines.
Ces modestes appareils sont réservés aux campements en altitude, surtout pour faire du thé, mais chaque camp est censé en disposer en dépannage.
Il n'y en a aucun dans les paquetages, dit JC.
Nous échangeons un regard coupable, tous deux honteux d'avoir si mal supervisé nos chargements et nos sherpas, et de nous être si mal préparés à cette première vraie sortie dans la montagne.
Il faut donc faire marcher ce Primus, dis-je.
Je manipule vainement le réservoir circulaire en laiton sans y trouver le moindre trou ni la moindre fuite. S'il y en avait, l'essence s'en échapperait.
Aucun défaut,
dit Jean-Claude en examinant chaque pièce détachée. Il marmonne dans sa barbe et utilise les quelques outils qu'il a apportés, un tournevis, une petite clé, quelques sondes en fil de fer, pour remonter l'appareil et essaie une fois encore de l'allumer. Sans succès.
La pression n'augmente pas dans le réservoir, dit-il enfin.
Je me force à demander.
Comment est-ce possible?
Norbouchedi intervient alors d'une voix douce, presque contrite.
Sur le Donkala?
Longtemps avant d'arriver à Kampazong.
Nawangbura a laissé tomber son chargement dans une pente. Aucun sahib ne l'a vu puisqu'il était à l'arrière avec les mulets. Un Primus a dégringolé sur plusieurs mètres et rebondi sur des rochers. Nawangbura est allé le récupérer avec le reste du matériel et a tout remballé sans mentionner l'incident au docteur Passang, au sahib Dikon ou à Lady Bromley.
C'était il y a des semaines, dis-je. On a sûrement utilisé ce Primus depuis. Pas forcément,
dit Jean-Claude d'un ton las.
On a pris l'habitude de se servir des mêmes réchauds à chaque campement. Celui-ci a été sorti de la réserve pour être emporté dans la montagne. C'est un des modèles de 1925 adapté pour les hautes altitudes. Vous pouvez le réparer?
Nos vies dépendent de sa réponse si nous restons coincés ici longtemps. Il nous faudra impérativement faire fondre de la neige pour nous hydrater.
Le réservoir ne fuit pas,
reprend JC.
J'ai examiné la pompe et les pièces en cuivre une dizaine de fois. Je ne vois rien qui soit cassé ou défectueux.
sauf que ça ne marche pas. »
Nous nous taisons pendant un long moment, mais le silence est rempli par un mugissement de vent encore plus sonore, si bien que nous agrippons tous la bâche de sol ou les arceaux de la tente pour l'empêcher de s'envoler.
Sandy Irvin a rafistolé des dizaines de choses, construit l'échelle de corde pour monter au col, réparé et repensé tout l'appareil à oxygène lorsqu'il était au camp de base ou plus haut,
murmure J.C.
Et moi, un guide de Chamonix et le fils d'un forgeron et inventeur devenu un industriel de l'acier, je ne suis pas foutu de faire marcher un putain de Primus lors de notre deuxième nuit à l'extérieur du camp de base.
Sans Primus ni réchaud à alcool, comment pouvons-nous obtenir une flamme pour faire fondre un peu de neige et réchauffer un peu de soupe?
Nous avons deux casseroles, des tasses en fer blanc, plein d'allumettes, de l'alcool à brûler et des litres d'essence. Si vous pensez verser un peu d'essence dans une tasse et l'allumer pour poser une casserole dessus, vous pouvez l'oublier tout de suite, Jake,
me dit Jean-Claude.
L'essence ne brûle pas de la bonne façon. Pour obtenir une belle flamme bleue, il nous faut...
J.C. s'interrompt brusquement et me prend le réservoir en laiton des mains. Il a déjà retiré la pompe et manipule maintenant la vis permettant d'augmenter la flamme en début de cuisson, puis d'éteindre l'appareil à la fin.
« La foutue vis de pression !» dit Jean-Claude. « Elle a tourné chaque fois que j'ai essayé d'allumer le réchaud, mais elle est faussée. Ça ne s'ouvre pas pour permettre à la vapeur d'essence de monter. En fait, ce foutu machin est tellement tordu que le réservoir ne garde même pas la pression. Cette connerie de vis !»
Il commence à la bricoler avec sa petite pince et sa clé, mais elle ne se visse pas comme il faut. Et maintenant, elle est coincée. Je le vois user toute la force de son bras massif et de sa main, sans effet.
« Laissez-moi essayer, » dis-je.
J'ai beau être plus grand et plus fort que Jean-Claude, et avoir des mains deux fois plus grosses que les siennes, je ne réussis pas plus à tourner la vis, que ce soit à main nue ou avec les outils.
« Complètement bloqué ! À cause de cette vis cassée, on ne peut pas mettre le réservoir sous pression !»
dit Jean-Claude. Ça résonne comme une sentence de mort. Mais la partie de mon cerveau qui fonctionne encore me rappelle que nous pouvons survivre sans eau pendant quelques jours et sans nourriture pendant des semaines si nécessaire. Toutefois, je devine aussi que beaucoup d'eau et un peu de soupe chaude auraient beaucoup réduit ma migraine et les autres symptômes du mal des montagnes dont je souffre. En attendant, les parois hémisphériques de la tente essaient de s'arracher aux arceaux de bois qui les maintiennent. La fine bâche de sol, les Sherpas ayant oublié d'apporter la deuxième, plus épaisse, tente de se soulever malgré nos poids combinés et malgré les ballots et les bidons d'essence éparpillés dessus. Je n'ai jamais vécu un tremblement de terre, mais ça doit ressembler à ça. En moins bruyant. Nous sommes toujours obligés de hurler pour nous entendre.
« Jake et moi retournons dormir dans notre tente, » dit Jean-Claude à Babou et Norbeau. « On ne pourra pas tenir allongé assis dans celle-ci. Essayez de vous reposer. Et dites à Angshiri et Lakpa Yisei de ne pas s'inquiéter. La tempête se sera peut-être calmée d'ici à demain matin. Et soit Lady Bromley-Montfort sera arrivée avec les Sherpas et les provisions, soit nous redescendrons au camp 2. »
Alors que nous sommes sur le point de sortir, J.C. m'arrête.
« 1 minute, Jake !»
Et il commence à me passer les bidons d'essence. Il prend aussi le Primus remonté, quoique toujours inutilisable.
« On va laisser les bidons à côté de votre tente !»
dit-il à Baburita. Mais à la place, il me fait signe d'emporter ma brassée de petites bonbonnes du côté le plus éloigné de notre tente, et je les pose, comme il vient de le faire avec les siennes, derrière un rocher. Approchant la bouche de mon oreille pour que je puisse l'entendre malgré le vent, il dit
« Les pires blessures que j'ai vues en montagne ont été causées par des feux de tente !» Je ne doute pas que nos amis essaieront de faire brûler de l'essence quand ils auront trop soif.
Je hoche la tête. Par un jour ou une nuit calme, ce genre d'expérience vaudrait peut-être la peine d'être tenté, à côté de l'ouverture. Mais pas dans une tente qui se soulève et s'agite dans la tempête. Notre propre tente, de 1,80 m sur 2 m, est à moitié effondrée et fait peine à voir. J.C. lève un doigt pour me demander d'attendre un instant, et se glisse juste assez loin à l'intérieur pour prendre un rouleau de la corde miracle du diacre dans son sac à dos. Il en coupe différentes longueurs que nous attachons à des pierres gelées dans la moraine, des blocs rocheux et même à un pénitent, renforçant la toile d'araignée qui maintient notre tente. Frigorifié à présent, je suis soulagé lorsque nous pouvons enfin nous mettre à l'abri. Nous retirons nos bottes, mais les glissons avec nous à l'intérieur de nos sacs de couchage pour les empêcher de geler. À cette température, si un alpiniste laisse ses bottes à l'extérieur de son sac, il risque de casser les lacets en les enfilant le lendemain. Ayant gardé la parka en duvet de Finch et le pantalon de Bibendum, plus la capuche de Reggie, la faible chaleur corporelle qui me reste augmente assez vite.
Tenez, Jake! Mettez ça à l'intérieur de votre sac!
À la lumière de la torche de JC, je vois qu'il me tend une boîte de spaghettis gelés, une autre de viande, une brique solide de soupe portable et la conserve de pêche, je remarque le coin cabossé, que Reggie a lancé à la tête du diacre, il y a une centaine d'années.
C'est une blague,
dis-je.
Comment pourrais-je dormir avec ces boîtes glaciales contre moi? Pas du tout, j'en ai deux fois plus dans mon sac. Notre chaleur réussira peut-être à faire fondre ou au moins à ramollir un peu de nourriture. Il y a du sirop dans la boîte de pêche. On le partagera avec les autres demain matin pour, comment dites-vous, étancher notre soif.
On l'ouvre et on le boit tout de suite tous les deux. Telle est la pensée minable qui me vient. Mais la noblesse l'emporte. La noblesse et la certitude que le sirop est pour l'instant aussi solide qu'une brique. JC éteint la torche pour économiser les piles, puis prenant la voix du diacre, il me demande.
Alors, quelles leçons les événements d'aujourd'hui nous ont-ils enseignés, mes amis?
Nous avons droit à cette question après chaque ascension ou presque, et après chaque problème rencontré lors d'une ascension. L'imitation de l'accent professoral d'Oxford est si comique que j'éclate de rire malgré la douleur qui me vrille le crâne.
Nous devrions vérifier plus soigneusement le contenu de nos chargements avant de partir établir un nouveau camp,
dis-je dans l'obscurité bruyante.
Oui, quoi d'autre?
Nous assurer qu'aucun des porteurs ne s'est débarrassé de choses indispensables,
comme son sac de couchage ou celui d'un de ses camarades.
Oui, quoi d'autre?
Prévoir un réchaud UNA dans chaque camp en plus du Beuglan. Les réchauds UNA que nous avons apportés sur l'Everest, plus petits et plus légers que les Primus, et fonctionnant avec un combustible solide, sont en général utilisés dans les camps de très haute altitude, là où il importe de n'emporter que des charges minimales. Je suis presque sûr que Mallory et Irvin en avaient un à leur camp 6.
Les Primus marchent presque toujours,
fait remarquer JC.
Robert Falcon Scott en a transporté un sur 1400 km pour aller au pôle sud, et pendant presque tout le trajet de retour.
Et regardez ce qui est arrivé à Scott et ses hommes. Nous nous remettons à rire tous les deux. Comme en réponse, le vent du col nord hurle de plus belle. J'ai l'impression que notre petite tente de place va s'agiter jusqu'au déchirement en dépit, ou peut-être à cause, de la toile d'araignée de corde que nous avons ajoutée dehors. Au bout d'un moment, je lui demande.
Vous pensez que Reggie et les Sherpas seront là en fin de matinée?
Le silence de Jean-Claude se prolonge, à tel point que je finis par le croire endormi. Puis il répond
« J'en doute, Jake. Si le blizzard continue comme ça, il serait imprudent d'essayer de parcourir ces 5 derniers kilomètres sur le glacier. N'oubliez pas qu'ils ignorent que notre Primus est inutilisable. Ils s'imaginent que nous avons ce qu'il faut à boire et à manger, que... Quelle est l'expression déjà? Ah oui, que nous faisons le gros dos en attendant que ça passe. À mon avis, dès les premiers signes de blizzard... Lady Bromley-Montfort aura très judicieusement quitté le camp 2 pour battre en retraite. C'est un site froid et exposé, même dans les meilleures conditions.
Il a raison sur ce point. D'après les membres des anciennes expéditions, le camp 2 est censé être agréable car son orientation lui permet de profiter de tout le soleil que veut bien offrir le ciel himalayen, contrairement aux camps 1 et 3. Mais lorsque nous y étions, le temps est resté couvert, venteux et d'un froid mordant. Son seul avantage est sa belle vue sur le mont Kailas, qui porte le nom du médecin mort durant l'expédition de reconnaissance de 1921.
Grâce aux cordes fixes que nous avons installées sur le chemin, dis-je, plein d'espoir, il ne leur faudra que quelques heures pour venir du camp 1, ou même du camp de base.
J'en doute,
dit Jean-Claude.
On avait de la neige jusqu'aux genoux quand on a ouvert la trace ce matin. Nos empreintes seront comblées et auront disparu d'ici à demain matin. Je crains que nombre de cordes soient également ensevelies. C'est une violente tempête, mon ami. Si Reggie ou le diacre tentaient de monter, leurs porteurs et eux pataugeraient dans la neige, du moins à partir du camp 1, quand ils quitteraient la moraine pour attaquer le glacier. C'est épuisant et terriblement dangereux dans ce genre de tempête, quand on ne peut pas voir la piste ou les crevasses. Nous avons laissé des bambous partout sur le chemin, dont la plupart auront sûrement été arrachés ou recouverts,
dit JC. Et adoptant le rythme lent et l'accent britannique distingué du diacre, il ajoute
« L'autre enseignement à tirer, mon ami,
c'est qu'au moins une baguette de bambou sur deux doit être surmontée d'un drapeau rouge.
Cette fois, j'ai trop mal à la tête pour rire. De plus, je commence à avoir un peu peur.
Qu'est-ce qu'on fait si la tempête se prolonge demain toute la journée, Jean-Claude?
L'expérience nous dit de rester ici, en faisant le gros dos, jusqu'à ce qu'elle soit passée, me répond-il, tandis que les claquements de la toile de tente continuent de résonner comme des coups de feu.
Mais je m'inquiète pour les deux Sherpas qui n'ont pas de sac de couchage. Ils semblent déjà assez mal en point. J'espère que leurs amis pourront leur tenir chaud cette nuit. En revanche, si ça dure plus d'une journée, je crois qu'on devra essayer de redescendre au camp 2. Mais comme vous l'avez dit, il est presque aussi venteux et froid que ce foutu camp 3. Sauf qu'il doit maintenant y avoir au moins 6 tentes là-bas. Ils ont aussi sûrement laissé des vivres et au moins un Primus et un réchaud Una avec son combustible dans un des paquetages destinés à rejoindre les camps plus élevés.
Ah bon sang! Vous avez raison. Je me retourne et rentre en contact avec une boîte de conserve gelée. Je sens aussi chaque caillou sous la bâche de sol, dont certains me rentrent dans la colonne vertébrale et les reins. Quand nous avons planté la tente à cet endroit, à l'écart de tout risque d'avalanche, il n'y avait pas assez de neige pour en faire un matelas confortable. À présent, elle s'amoncelle sur le toit de toile et tout autour de nous. J'oscille, frigorifié et malheureux entre la veille et le sommeil, quand Jean-Claude dit
« Jake ?»«
Oui ?»«
Je pense que nous devons attaquer le mur de glace directement, sans nous aventurer près de la pente où s'est déclenchée l'avalanche en 1922. Il y a trop de neige fraîche à cet endroit. Ce sera plus dur. Mais je crois quand même qu'il faudra escalader les 240 mètres de pente raide, en posant des cordes fixes au fur et à mesure, puis gravir le mur de glace bleu là où se trouvait la cheminée de Mallory. »
Je pense. Il plaisante. Ou alors, il est en pleine hallucination.
D'accord, dis-je. Bien. J'avais peur que vous ne vouliez utiliser l'ancienne méthode.
Jean-Claude se met à ronfler. Je m'endors en 10 secondes. Plus tard, nous saurons ensuite qu'il était environ 3 heures du matin, je suis réveillé par une pluie de grêlons sur mon visage et par les cris de Jean-Claude, presque couverts par le hurlement du vent. La tempête a fini par déchirer toute la couture de notre nouvelle tente mid, soi-disant coupe-vent du côté nord, et la toile est en lambeaux. Plus rien ne nous protège des éléments déchaînés.
« Vite !»
hurle Jean-Claude. La lumière de la torche montre un mur de neige entre nous deux. J.C. enfile ses bottes, puis il attrape son sac à dos d'une main, son sac de couchage rempli de conserves et la lampe électrique de l'autre, sans cesser de crier à mon intention. Les bottes délacées, le visage brûlant à cause du froid qui atteint les moins 40 degrés Celsius, oubliant de mettre mes différentes paires de gants et de moufles, traînant mon propre sac de couchage rempli de vivres et mon sac à dos presque vide, je titube derrière lui dans le maelstrom. Si la grande tente de Reggie a été soufflée, nous sommes tous morts.